Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous évoquons quelques grandes figures de la résistance et plus précisément, nous ferons le tour de ce qu'a été la résistance juive en France sous l'occupation. Pour tenter de cerner les multiples formes de ces organisations, il faut aussi comprendre la multiplicité des figures de la judaïté en France. Des juifs arrivés de l'Est pour travailler qui parlent le yiddish, aux juifs qui ont fui les pays envahis par l'Allemagne nazie, en passant par ceux dits israélites qui sont en France depuis des générations. Et parmi tous ces profils, certains sont religieux, d'autres marxistes, socialistes ou communistes, d'autres encore sionistes, d'autres enfin républicains. Avec nous pour en parler, l'historienne Sabine Zetoun, qui a écrit, avec Georges Loinger, un ouvrage consacré aux résistances juives pendant l'occupation, paru chez Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Ce livre, Sabine Zetoun, est une somme qui retrace et éclaire toute la complexité de ces résistances juives. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager dans ce travail ?
D'abord, c'est une initiative de Georges Loinger, qui avait déjà écrit un ouvrage chez Autrement sur les organisations juives de combat. Et il a souhaité ardemment de composer un ouvrage à la fois sur les 10 réseaux de résistance juive, spécifiquement juive, mais aussi sur les juifs dans la résistance, ces juifs qui ne se proclamaient pas juifs, qui ne se dissimulaient pas non plus juifs, mais qui ont joué un rôle dans la résistance française. Et également, le souhait de Georges Loinger était de parler de ces non-juifs, homologués justes, mais nombreux qui ont aidé des juifs n'ont pas été reconnus comme juifs, car sans ces justes ou sans ces anonymes, il n'y aurait pas eu autant de juifs sauvés en France sous l'occupation. Donc ça a été une démarche double, à la fois parler des justes et des anonymes, mais également de parler de ces juifs dans la résistance française. Et je dois dire que à une certaine époque, quand on parlait de résistance juive, la résistance juive était complètement méconnue, voire occultée. Il y a eu le livre de David de Knuth en 1947, Contribution à la résistance juive. Ensuite, en 1973, Jacques Ravine, également un livre sur la résistance juive. Annie Latour en 1976 ou en 73, et ensuite 1987, là il y a eu vraiment le pavé dans la mare, la résistance juive en France de Lucien Lazare, qui pour la, peut-être pas pour la première fois, mais qui de façon extrêmement vive a tordu le cou à cette soi-disant idée que les juifs, à cette idée même préconçue que les juifs seraient allés à l'abattoir comme des moutons. Or les juifs ont résisté plus particulièrement en France. La résistance juive, qu'est-ce que c'est ? C'est résister par tous les moyens légaux et illégaux, sous différentes formes, à savoir la résistance civile, c'est-à-dire le sauvetage des enfants et des adultes, la fabrication de faux papiers, et également une autre facette de la résistance armée. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de double occultation, puisque la résistance armée a été valorisée aux dépens de cette résistance civile, et que la résistance civile a été faite par pratiquement 90 ou disons 99% par des femmes. Et généralement, c'était des jeunes femmes, même des gamines, hein, de 17, 18 ans. Il y a quelques jours, j'ai participé à un colloque et Maurice Viennaire, résistant juif, disait « Tiens, ben là, je me rends compte que Liliane Klein-Libert de la 6e, Frida Wentenberg de MJS, ou que lui-même avait en 39, 15 ans. » Donc c'était des jeunes, soit d'anciens scouts, soit d'anciennes personnes de la Tikva comme André Salomon, qui se sont engagés pour protéger la population juive. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que ces personnes auraient pu se planquer. Ces personnes auraient pu se cacher, auraient pu essayer de passer en Suisse ou alors les Pyrénées, ensuite l'Espagne pour la Palestine de l'époque. Or, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont restés en France et ont créé des structures pour venir en aide à la population juive qui était menacée d'arrestation et de déportation.
Oui, et vous commencez d'ailleurs dans ce livre par rappeler que la France est le pays proportionnellement ont survécu le plus de juifs, puisque sur 320 000 juifs, 76 000 adultes et 11 400 enfants sont morts en déportation, ce qui est moins finalement en proportion que dans la plupart des pays européens.
Oui, en effet, la France, les juifs sur 320 000, on estime qu'il y avait à peu près 70 000 enfants. Sur ces 70 000 enfants, 11 400 ont été déportés. Mais la France a été, au niveau même de toute l'Europe, l'un des pays qui a été le plus épargné, entre guillemets, bien entendu. N'oublions pas que plus de 76 000 juifs ont été déportés de France, sans compter les fusillés, les exécutés, et également ceux qui sont morts, les 3 000 qui sont morts dans les camps en France. Je dois dire que on peut l'expliquer de différentes manières, comme je vous ai parlé tout à l'heure de ces anonymes, de ces justes, qui ont sauvé des juifs. Également, peut-être que l'année 42 a été le tournant décisif. L'été 42, peut-être un petit peu avant, mai-juin 42, avec le port de l'Étoile, en zone uniquement occupée, où on pouvait voir des enfants de plus de 6 ans porter l'étoile. Et ça, si vous voulez, au niveau de la population française, même s'il y avait une indifférence, parce qu'il y avait le marché noir, il y avait la pénurie, il y avait les conditions économiques, les hommes qui étaient prisonniers de guerre, etc. Je pense qu'il y a eu une évolution de cette conscience à l'égard des Juifs. Mais je crois qu'il ne faut pas être non plus angélique. La France n'a pas été entièrement sauvé des Juifs, mais peut-être pour certains, par leur silence, par leur indifférence, car ils auraient pu dénoncer, puisqu'il y avait toute une propagande pour dénoncer les Juifs. Or, c'est vrai, la France a été le pays où il y a eu le plus grand nombre de Juifs, et aussi peut-être l'aspect physique de la France, à savoir un pays à l'époque extrêmement rural, avec des campagnes, où il était fréquent, dès 1939, il était fréquent que des enfants de Paris, des grandes villes, surtout de Paris, aillent à la campagne pour profiter du bon air, pour oublier un petit peu les tracas de l'exode, etc. Donc il est très fréquent. Donc les familles d'accueil avaient l'habitude de recevoir ces enfants juifs. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que les familles d'accueil, pour la plupart, ne savaient pas que c'était des enfants juifs. C'était des enfants qui avaient besoin de prendre de l'air et que un bol d'air et que chaque mois ils recevaient une rémunération, ce qui était important à l'époque. Donc la plupart de ces familles ignoraient. Et là, le problème s'est posé, c'est quand ces familles se sont aperçues, quand un enfant a vécu pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans dans une famille, lors de la douche, lors du bain, etc., et que si c'était un petit garçon, il s'apercevait qu'il était circoncis ou que le gamin sortait son sidour comme ça, son livre de prière, ou qu'on découvrait une petite étoile qu'il avait cachée, alors que c'était formellement interdit, il y avait plusieurs attitudes. Soit c'était rendre directement l'enfant aux organisations juives comme l'OSE, la colonie scolaire ou le MNCR d'obédience communiste, ou alors c'était garder les enfants. Mais je n'ai pas connaissance d'enfants qui aient été dénoncés à la police française ou à la Gestapo.
Alors, on ne va pas évoquer, bien sûr, tous les réseaux de résistance juive, puisqu'ils sont malgré tout assez nombreux, mais on va tenter de comprendre les différentes formes de ces résistances. Alors, vous commencez dans ce livre par énumérer les grandes figures de la résistance nationale en France ou en Angleterre, qui sont juifs et qui résistent comme patriotes au nom de la France pour des valeurs républicaines, sans se définir comme juifs particulièrement.
Oui, en effet, vous avez donc ce qu'on a appelé les juifs dans la résistance. Donc, il y a eu une résistance spécifiquement juive, des personnes juives qui ont œuvré spécifiquement à protéger, à défendre la population juive. Et vous avez un certain nombre de juifs qui étaient dans la résistance, qui, comme je vous l'ai dit, qui ne se dissimulaient pas et qui ne criaient pas sur les toits qu'ils étaient juifs, mais qui avaient un profond attachement à la France, mais en tant que juif. Et c'est là où la difficulté de définir ce que c'est la résistance juive, est-ce que la résistance juive, ce ne sont uniquement des personnes juives qui ont aidé à sauver, ou alors ce ne sont pas les acteurs, ce sont également les acteurs, mais également les actions pour sauver les Juifs. Et là, je voudrais vous citer l'exemple de Jacques Bingen, qui était un Juif d'origine italienne, qui devait partir remplacer Jean Moulin donc à Lyon pour constituer au niveau politique la réunification politique de la résistance. Et en 43, avant de partir, voilà ce qu'il écrit à sa mère. J'ai acquis un amour de la France plus profond, plus immédiat, plus tangible que tout ce que j'éprouvais autrefois quand la vie était douce et somme toute facile. Et mon départ peut, c'est une chance inattendue, servir la France autant que beaucoup de soldats. J'espère d'ailleurs qu'avant ma fin, j'aurai rendu une grande partie de ces services. Il y a enfin accessoirement la volonté de venger tant d'amis juifs torturés ou assassinés par une barbarie comme on n'en avait point vu depuis des siècles. Et là encore, la volonté qu'un juif de plus, il y en a tant si tu savais, ait pris sa part entière et plus que sa part dans la libération de la France. Donc ça signifie que les juifs dans la résistance ou les résistants juifs, les juifs dans la résistance étaient dans tous les mouvements, dans toutes les organisations, je pense bien entendu à Jean-Pierre Lévy, je pense bien entendu à Raymond Aubrac, donc dans tous les mouvements, dans toutes les organisations, dans toutes les activités, qu'elles soient militaires, pas passives, parce que ce terme est très péjoratif, dans des activités militaires, dans des activités civiles, à tous les postes et à toutes les responsabilités. Et c'est ça qui fait, je crois, la complémentarité de cette résistance juive et ce qui explique un petit peu ce titre, c'est-à-dire les résistances juives, parce que la résistance juive, donc, c'est la spécificité des juifs, et les autres, comment les classer. Donc, pour expliquer qu'au-delà même des clivages politiques et même au-delà des clivages identitaires, parce que la notion d'identité juive est extrêmement subjective, on a souhaité donc parler de résistance juive au pluriel.
Alors vous expliquez aussi donc que les réseaux juifs qui se lancent dans le sauvetage sont pour la plupart le fait de juifs étrangers, qui sont donc plus conscients peut-être de la fragilité, de la vulnérabilité des populations immigrées juives.
Alors pour les immigrés, par exemple, vous avez l'OSE, j'ai soutenu un doctorat d'histoire il y a maintenant plus de 25 ans sur l'œuvre de secours aux enfants, qui est une vieille organisation russo-polonaise qui est née dans les shtetls par l'intelligentsia juive russe, qui est venue en aide aux populations juives dans les shtetls et qui a su au fil du temps s'adapter aux situations, que ce soit pendant en Russie tsariste, que ce soit durant la révolution d'octobre, comment s'adapter par rapport à un système qui voulait que cette organisation n'existe plus, parce qu'on parlait de typhoïde juive. Est-ce que la typhoïde juive existait-elle réellement, mais les conditions politiques, les conditions dans lesquelles les gens vivent, eh ben, rendent les gens malades ou pas. Que l'OSE est parti ensuite à Berlin, est parti ensuite en France, et que l'OSE a été la seule organisation à avoir eu une activité médico-sociale et aussi l'ouverture de maisons d'enfants. Donc l'OSE a été la seule organisation à avoir eu des maisons d'enfants, mais aussi il faut rendre hommage à la colonie scolaire, à Rapoport qui avait créé avec d'autres organisations la rue Amelot à Paris, et surtout dire cette forme d'interpénétration, si vous voulez, entre tous ces mouvements, entre toutes ces organisations juives. Je me souviens qu'une assistante sociale est née à Haverboux, me disait, ben moi je travaillais à la fois pour la colonie scolaire et à la fois pour le comité OSE avec le docteur Minkowski. Et donc ces personnes, on ne savait pas D'ailleurs, elle-même ne savait plus où elle travaillait. Officiellement, elle travaillait là, mais officieusement. Et c'est ça, si vous voulez, qui a permis ce sauvetage, qui a permis à plus de 10 000 enfants juifs sauvés par les œuvres juives, qui a permis donc ce sauvetage, parce qu'il y a eu vraiment un réseau d'amitié, puisque les gens se connaissaient avant-guerre, mais bien sûr aidés par des gens, des individus du secours national qui a joué un grand rôle. Je ne parle pas de l'institution en tant que telle, mais des individus qui en tant qu'assistante sociale, avaient un devoir de conscience, et là leur devoir a fait qu'elles ont toutes fait pour sauver des enfants, mais également des adultes.
Oui, d'ailleurs, vous insistez bien dans le film sur le rôle des femmes. Vous l'avez dit brièvement au début de cette conversation. Les femmes ont été les actrices principales de cette résistance.
Oui, bien entendu. Bon, c'est vrai qu'il était plus facile pour une femme avec un petit insigne de la Croix-Rouge ou alors du Secours National de se promener avec deux ou trois gamins. C'était plus facile pour elle de se mouvoir dans la rue que des hommes. Visite anatomique, on s'aperçoit qu'ils sont circoncis. Ce qui est arrivé à Jacques Salon en zone sud... qui a été arrêté, qui a été torturé, qui a pu s'échapper du convoi qui le menait vers la déportation. C'est vrai que la plupart de ces femmes étaient des jeunes, étaient des gamines qui vraiment voulait sauver cette population. Et je voudrais rendre hommage à une femme extraordinaire qui est André Salomon, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plus de 25 ans maintenant, quand je faisais mon doctorat d'histoire, et avec qui j'ai pu discuter longuement et que j'ai récolté son témoignage sur une cassette audio, et qui avait une foi, si vous voulez, une ardeur à expliquer que là où les Juifs étaient dans le malheur. On ne parlait pas de déportation, hein. La déportation, c'est à partir de 1942. À partir du moment où les Juifs étaient dans le besoin, il fallait venir en aide aux siens. Cette solidarité était extrêmement forte, donc même au-delà des clivages politiques, des clivages identitaires, les Juifs ont sauvé les leurs.
Alors, il y a aussi la question de la résistance armée. Donc, vous montrez bien dans ce livre qu'il y avait de nombreux juifs dans les réseaux communistes, mais que ces personnalités ont été occultées, souvent la libération au profit de la figure d'une France populaire et résistante. Et puis, vous montrez bien qu'il y avait des vrais réseaux armés qui faisaient aussi du renseignement, de l'infiltration, qui ne s'occupaient pas essentiellement de sauvetage, mais qui étaient vraiment dans quelque chose de l'offensive, de quelque chose de l'ordre du militaire. On peut penser à la Moye, par exemple.
Oui, la main-d'œuvre ouvrier immigrée. Et je voudrais vous citer, toujours par rapport à cette identité juive, de Marcel Reymann, qui était l'un des résistants des 23 de la Fiche Rouge, qui, lui, se positionnait sans détour sur sa judéité en lançant à ses juges. En tant que juif, je ne voyais pas d'autre issue que de prendre les armes à la main pour lutter contre vous. Donc, qui donc que lui pouvait juger de sa propre identité juive ? Il se reconnaissait en tant que juif. Il a, comme ses compagnons, œuvré plutôt pour des attentats, pour des sabotages, pour tuer, par exemple, Julius Ritter, qui était l'un des responsables du STO, du service du travail obligatoire. C'est vrai que maintenant, on dit, non, ils n'ont pas sauvé des enfants, ils n'ont pas sauvé des juifs, donc est-ce qu'on peut les mettre dans la résistance juive ? À cela, je dois dire qu'il faut vraiment étudier d'où venaient ces jeunes. C'était plutôt des ouvriers qui venaient de leur Yiddishland, qui étaient des ouvriers, qui étaient de milieux extrêmement défavorisés, et leur combat était plutôt la guérilla urbaine. Et d'ailleurs, cette forme de guérilla urbaine a été créée, que ce soit à Lyon, avec Henri Krischer, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Toulouse, c'était des petits groupes de frappes qui faisaient des sabotages de trains, etc. Donc, Ces deux formes de résistance, à mon avis, ne sont pas, on n'a pas à les opposer, loin de là. Elles ont été complémentaires, et ce, en fonction des uns et des autres, en fonction de l'histoire de chacun. Et tout cela a permis à la fois de sauver les populations juives, la population juive en France, mais aussi à chasser le plus tôt possible l'occupant. Et je dois vous dire que si Lozé a sauvé un grand nombre d'enfants qui sont en zone nord, en zone sud, il faut dire malheureusement ou heureusement que si la guerre avait duré, si la guerre avait été prolongée peut-être de 6 mois ou d'une année, tous les enfants qui étaient cachés auraient été retrouvés. Il y aurait eu beaucoup plus que 11 400 enfants juifs, parce que la Gestapo avait retracé tout le maillage de l'organisation clandestine, en l'occurrence le circuit Garel. Et même s'il y avait des planques, même si les papiers étaient, les papiers où l'identité des enfants était cachée, on a maintenant, les historiens connaissent, savent par les archives, que la Gestapo avait déjà identifié le plan élaboré par Georges Garel et par la sixième, bien entendu, par les EI. Donc la guerre s'est arrêtée et l'occupant est parti. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler, il y a un groupe qui avait une action assez originale, puisqu'il s'agissait de susciter la solidarité chez les non-juifs, donc comme le MNCR, par exemple, qui émanait des mois. Quelles étaient exactement les actions que menaient ces groupes?
Alors, si vous voulez, le MNCR, c'est le Mouvement National contre le Racisme. C'est un mouvement qui a été créé au printemps 42 et qui était une branche, la branche juive de la MOI. Donc elle était principalement tournée vers le sauvetage, mais aussi pour le combat contre la politique raciste, xénophobe et antisémite de Vichy et de l'occupant. Donc qu'a fait exactement le MCNR, c'est-à-dire sauver des enfants juifs, c'est-à-dire les placer, les planquer dans des familles d'accueil, et également diffuser, ça c'est très important, diffuser plusieurs journaux clandestins, dont par exemple J'accuse en zone nord ou Fraternité en zone sud. Et le MNCR a contribué à la prise de conscience du sort tragique des juifs. C'est-à-dire, il faut bien se remettre à l'époque et éviter tout anachronisme, même quand on avertissait, même quand des policiers, par des messages sibyllins, avertissaient des familles qu'ils connaissaient en disant que le 16 et 7 juillet, il allait se passer quelque chose et il valait mieux pas rester chez soi. Malgré tout ça, il y avait des familles qui restaient chez eux avec leurs petits baluchons et qui attendaient. Donc, si vous voulez, cette prise de conscience, elle s'est faite, que ce soit dans la population juive ou que ce soit faite chez les non-juives, elle s'est faite extrêmement lentement, extrêmement, mais progressivement. Donc la diffusion de ces journaux par la MNCR a permis, si vous voulez, à ce que ces personnes puissent se cacher. Mais le problème, c'est se cacher où? Quand vous êtes étranger, en parlant peu ou mal le français, n'ayant pas tout ce réseau d'amis, de relations qu'avaient les juifs français, il était très difficile pour eux. Mais ça a permis quand même une prise de conscience et essayer de se cacher, quoi.
Merci beaucoup. Je rappelle, Sabine Zetoun, que votre livre rédigé avec Georges Loinger est consacré aux résistances juives en France sous l'occupation et paru cette année aux éditions Albin Michel. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.